السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, dans une dizaine de jours, Inch'Allah Azza wa Jal, nous allons vivre trois événements, trois actions extrêmement importantes qui constituent des piliers, des actions remplies de vertus, de fada'il de notre dîn. Ces trois actions, premièrement une action plus générale, accessible et qui concerne chaque mu'min, chaque musulman, c'est l'entrée dans la première décade du mois de Dhul-Hijjah. En connaissance de cause des fada'il, des vertus et des récompenses qu'il y a dans cette première décade et les attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'attention des musulmans durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah qui sont des jours bénis par Allah azza wa jal. La deuxième action qu'on va vivre dans une dizaine de jours, et c'est un peu plus précis, ça concerne cette fois-ci les personnes qui ont les moyens, c'est le udhiya, le qurbani comme on dit. La possibilité de faire revivre la sunna d'Ibrahim alayhi salam en immolant, en égorgeant une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deux. Et la troisième chose, et cette troisième action, ça c'est un pilier de la religion, c'est un pilier de l'islam, et cela concerne uniquement les personnes qui ont été immédiatement choisies pour cette année par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'accomplir, c'est faire vivre, que chaque musulman vive le cinquième pilier de l'islam qui est l'accomplissement du hajj ou baytillahi l'haram. L'accomplissement du hajj, mes chers frères en islam, est un des moments les plus forts que le musulman peut connaître durant sa vie, un des moments où il verra sa foi atteindre les plus haut degré, en contemplant la grandeur d'Allah à travers les créatures, en vivant dans les mêmes endroits où le prophète alayhi salatu wassalam a vécu, a fréquenté à travers les manasik ul hajj, à travers les différentes étapes du pèlerinage. Et nous devons tous prendre conscience de l'importance de cette action. Lorsqu'on parle du hajj, l'intervention ne concerne pas uniquement la personne qui va au hajj. Lorsqu'on parle du hajj, c'est une action de notre dîn, un pilier de la religion. Certes, les personnes les plus concernées, les personnes les plus intéressées, ce sont les personnes qui vont au hajj, qui ont été choisies par Allah pour aller à Makkah, à Madina, durant cette période. Mais ces paroles, ces vertus concernent également la personne qui a jamais, la personne qui n'a jamais accompli le hajj. En écoutant les vertus, en écoutant les récompenses qu'il y a dans le pèlerinage, la personne prend conscience de ce qu'elle n'a pas encore accompli et cela provoquera en lui l'envie, le targhib, le désir d'accomplir le hajj. Et ces paroles concernent également les grands chanceux, c'est-à-dire les personnes qui vont régulièrement, les personnes qui vont au hajj tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, que ces personnes-là ne perdent pas l'importance de ce rite, que les personnes restent conscientes de l'importance de cette action. Alors que nos frères et sœurs qui ont été choisis par Allah Azza wa Jal pour accomplir le hajj cette année, que ces personnes prennent conscience de la chance qu'Allah Azza wa Jal leur a accordée. Car le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle un hadith dans lequel un sahaba avait demandé au prophète d'Allah, quelle est l'action la plus aimée, quelle est la meilleure des actions au prophète d'Allah. Notre prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr, a cité le iman. Parce que sans iman, il n'y a pas de musulman. Il n'y a pas de reconnaissance de la grandeur, de la divinité d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a immédiatement répondu, imanum billahi wa rasuli, la foi en Allah et la foi au prophète alayhi salatu wassalam. Ce sahaba demande au prophète d'Allah, thumma madha, au prophète d'Allah, après le hajj. Dis-moi, prophète d'Allah, la meilleure des actions, l'action qui me rapprochera le plus rapidement, le plus facilement d'Allah Azza wa Jal. Le prophète dit hajjun mabrur, un hajj qui a été agréé, qui a été accepté par Allah Azza wa Jal, muttafaqun alayh. Hadith également de Ma'iz, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a affirmé encore une fois, imanum billahi wahda, ô musulmans, sachez que la foi en Allah l'unique. Ensuite, thumma hajjatun mabrura. Ensuite, ce mu'min qui accomplit un hajj, qui a été agréé, qui a été accepté par Allah, sachez, ô musulmans, que cette action tafdulu sa'ira al-a'mal, que cette action-là dépasse de loin toute action, toute bonne action qu'un musulman peut accomplir, et pour montrer bien pour bien montrer la métaphore, hein, la différence qu'il y a entre le hajj et les autres actions, le prophète m'a dit, c'est comme la différence qu'il y a entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Métaphore géographique, hein, d'espace, qui nous permet vraiment de repérer que les deux points les plus éloignés, hein, visu, enfin, la vision de l'homme, hein, cette distance, c'est comme la distance qu'il y a entre les thawab, les vertus du pèlerinage, et n'importe quelle autre action que vous pouvez accomplir durant votre vie. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé également que le pèlerin, cette personne qui est choisie par Allah pour aller faire le hajj, lorsqu'il accomplit les rites de hajj qui ont été acceptés par Allah, notre prophète nous rassure que sachez, ô musulmans, que al-hajj yaghsilu dhunuba kama yaghsilu al-ma' ud-daran, que le hajj va vous purifier de vos péchés comme l'eau purifie toute matière d'impureté. Comme l'eau, c'est l'élément qui purifie, qui mutahir. De la même façon, le hajj, il est mutahir. Il purifie le musulman de la moindre trace des péchés qui restent dans son livret de compte ou dans son cœur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné des exemples encore plus vivants, encore plus précis, encore plus proche de ce que nous vivons ou ce que certains vont vivre. Le prophète alayhi salat wa salam explique que à chaque fois, ma yarfa'u ibilul hajj rijla, lorsque vous êtes sur votre monture pour le hajj, vous êtes sur le chameau à l'époque, hein, l'exemple donné, c'était l'exemple du contexte de cette époque, lorsque vous êtes sur votre monture et que le chameau lève une patte et il repose sa patte, la yarfa'u ibilul hajj rijla wa la yad'u yada, à chaque fois que la monture avance de la sorte, illa, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal accorde au pèlerin? Kataballahu lahu hasana. Pour chaque mouvement de sa monture, Allah Azza wa Jal accorde au pèlerin une bonne action. Ou alors Allah Azza wa Jal l'efface, lui enlève un péché. Ou rafa'ahu biha daraja. Ou alors Allah Azza wa Jal augmente le degré de ce pèlerin. Maintenant, quelqu'un qui prend sa monture, hein, et qu'on parle de monture, c'est par analogie. Si c'était à l'époque chevaux ou chameaux, à notre époque, c'est les moyens de transport modernes. Ça peut être les bus, ça peut être, hein, le métro, hein, qui vont mettre en utilisation cette année. En petite parenthèse, cette année, il n'y aura pas de bus. Aucun bus ne va entrer ni à Mina, ni à Arafat, ni à Muzdalifa. Tous les pèlerins, 2 millions, 3 millions, ils vont exclusivement se déplacer par le biais de ces moyens de transport, j'allais dire non polluants, mais ce n'est pas notre priorité, mais beaucoup plus rapide, qui permettra aux pèlerins de ne pas passer 2 heures ou 3 heures entre Arafat pour rejoindre Muzdalifa le soir. Petite parenthèse. Mais même si les moyens de transport ont été facilités, il n'y a plus de taklifs, il n'y a plus de difficultés pour le pèlerin lorsqu'il se déplace de la Mecque vers Mina, Arafat, Muzdalifa. Malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé que chaque mouvement du pèlerin lorsqu'il est en voyage, parce que le voyage d'une manière générale, c'est qit'atun min al-'adhab. Ça fait partie, on va dire, en guillemets, c'est comme un châtiment. Il y a des difficultés. Et même si les moyens de transport sont plus faciles, plus accessibles de nos jours, le pèlerin obtient quand même des récompenses. Lorsque le moyen de transport se déplace, Allah augmente le grade du pèlerin. Allah efface le péché du pèlerin et Allah Ta'ala lui accorde des récompenses. Donc, mes chers frères, ce sont là des hadiths qu'on rappelle sans cesse tous les ans. Mimbab et Tarib, pour inciter les personnes qui n'ont pas fait le hajj, accomplir le hajj. Et pour encourager les personnes qui n'ont pas les moyens, qui se disent que peut-être qu'un jour il faudra envisager le hajj, mais pour les encourager, qu'il faut faire des efforts. Parce que ce qui se passe là-bas, à Mecca, à Arafat, à Mina, à Muzdalifa, c'est magique. Et celui qui le rate, celui qui ne l'a pas vécu, il n'a rien connu de sa vie. Il n'a rien connu, il verra quelle est la puissance de iman qu'il aura lorsqu'il sera présent sur ces sites, ces endroits. Et on terminera ces vertus par le hadith le plus connu, le hadith mémorisé par chaque musulman. Notre prophète alayhi salat wa salam utilise une métaphore exceptionnelle pour rappeler que chaque pèlerin qui revient et qui a vu son hajj accepté par Allah, ce pèlerin revient comme un enfant qui vient de naître. Le hadith est très connu. Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuh. Ce pèlerin qui revient du pèlerinage, qui n'a pas fait de péché, qui n'a pas été grossier, c'est-à-dire qui a fait un hajj correct, accepté par Allah, ce pèlerin revient comme si c'était un nouveau-né. La métaphore utilisée, c'est comme un nouveau-né, comme un bébé qui vient au monde. Hadith de Bukhari, muslim. Le prophète a utilisé cette métaphore pour que le musulman comprenne bien que cette action-là est différente des autres actions. Et les ulama, rahimahumullah, ils essaient de trouver la raison. Qu'est-ce qui fait que le hajj, hein, comporte autant de bénéfices, autant de bienfaits pour le musulman? Vous savez, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, nous explique quelles sont les récompenses qu'Allah accorde au musulman qui fait ses 5 prières par jour. Un pilier de l'islam qui est répété 5 fois par jour. Et nous voyons qu'est-ce qu'Allah Ta'ala accorde aux musulmans. Ben, nous comprenons encore mieux quelles sont les récompenses qu'Allah accorde à un musulman qui accomplit un pilier qu'il est censé le faire une seule fois dans sa vie. Si pour une action qui doit être répétée 5 fois par jour jusqu'à la mort, Allah est capable d'accorder autant de récompenses, mimbab aula, encore plus de récompenses, il est encore plus acceptable qu'Allah élève celui qui doit faire une action qui lui doit être faite uniquement une fois dans sa vie et qui fait partie des 5 arkans, des 5 piliers de l'islam. Et les ulama, rahimahumullah, disent également que lorsque le pèlerin accomplit son hajj, hein, il va faire des actions qui sont intrinsèques au hajj, qui sont propres au hajj, qui vont lui apporter des bénéfices spirituels énormes. Le simple fait d'embrasser la pierre noire, pour celui qui le peut, ou de faire le istilam de loin. Le simple fait de faire dua au multazam, entre la porte de la Kaaba et la pierre noire. Le simple fait d'avoir l'honneur et la chance, on dirait le tawfir, certains pas le mot chance, le tawfir de faire 2 rakats de namaz dans le Hijri Ismail, qu'on appelle nous le hatim, c'est-à-dire le demi-cercle, hein, qui fait partie de la Kaaba, etc., etc. Le simple fait de boire de l'eau du zamzam. Le simple fait de se raser la tête après les rites du hajj, ce sont des actions, une multitude d'actions qui composent le hajj, une multitude d'actions qui eux-mêmes sont supérieures les uns aux autres. Donc on comprend que quand un pèlerin a passé par toutes ces étapes, il a fait toutes ces amal, on n'a cité que 3 ou 4, il y en a beaucoup plus, c'est tout à fait normal que lorsqu'il retourne, avec un hisab complètement allégé, sans le moindre péché, parce que le hajj, c'est une action difficile, qui demande sacrifice, du temps, sacrifice financier et sacrifice mujahada de nafs, sacrifice physique également. C'est pour ça que le hajj est obligatoire qu'une seule fois dans la vie. C'est pour ça que le prophète a qualifié le hajj de la femme comme étant le jihad des femmes, comme étant la guerre sainte des femmes, parce que c'est une action qui est difficile, qui comporte des mashaqqa, des difficultés. Et si on continuait les vertus, le prophète a promis que celui qui fait ce hajj mabrour, Allah Ta'ala lui accorde le paradis. Le prophète a qualifié al-hujjaj ou al-umar ou wafdullah, celui qui va au hajj ou au umrah, ce sont là les invités d'Allah, c'est la délégation d'Allah, afin qu'un mu'min comprenne que c'est pas parce que je suis riche que je vais au hajj, et c'est pas parce que je suis pauvre que je ne peux pas aller au hajj. Il y a des gens parfois qui disent que oui, mais m'a payé mon hajj, hein, j'ai besoin de tel confort, je veux une chambre comme ci, comme ça, j'ai payé. Ya akhi, oh mon frère, tu n'as rien payé. C'est pas ton argent qui t'a amené au hajj, c'est Allah qui t'a écrit parmi les pèlerins, donc sois digne de ce choix. Sois digne du choix d'Allah, Allah t'a accordé cette opportunité, cette chance, montre-toi reconnaissant. Fais en sorte que ton hajj soit rempli de piété et d'humilité. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit que lorsque le pèlerin fait le dua, il lève les mains. Quand un hajj lève les mains, c'est magique. Quand un pèlerin lève ses mains et demande dua à Allah, c'est quelque chose de magique. In da'awhu ajabahum. Il suffit que le pèlerin lève ses mains, oui, même s'il ne lève pas ses mains, il demande un dua qui sort de sa bouche ou de son cœur, Allah Azza wa Jal exauce le dua. When istaghfaruhu ghafara lahum. Si un pèlerin demande, oh Allah, tawba, oh Allah, pardon pour les péchés, pardon pour ses erreurs, avec un cœur sincère et pur, bien sûr, ghafara lahum, Allah Ta'ala promet qu'il pardonne à ces personnes. Et le prophète a demandé, oh Allah, le prophète a demandé un dua à Allah, Allahumma ghfir lil hajj, oh Allah, pardonne aux pèlerins, wa liman istaghfara lahu al hajj. Et pour les personnes qui auront bénéficié des doigts du pèlerin. Un ami qui va au hajj, il demande pardon pour vous. Le prophète a demandé à Allah qu'Allah accepte le tawbah qu'il demande pour son prochain. Ça, c'est pour qu'on comprenne l'importance du pèlerinage et l'importance de toutes les actions qui tournent autour du hajj. Maintenant, mes chers frères, le hajj, certes, une action importante. Le hajj commence le 8e de l'Hijjah et se termine après le tawaf al-wida', le tawaf d'adieu. Mais le hajj, mes chers frères, en islam, se prépare bien en avance. Le hajj a besoin d'une préparation spirituelle. Il doit faire en sorte que lorsqu'il se rend dans ces endroits sacrés, il doit se rendre avec le cœur le plus pur possible. Il doit faire en sorte que bien avant son départ, il essaie de se travailler intérieurement, il essaie de travailler sa foi. Dès maintenant, on est à 10 jours du hajj, hein, il est déjà un peu juste. je veux dire à 10 jours du départ, il est un peu juste, il doit prendre conscience que dès maintenant, je me prépare. Tout comme pour le mois de Ramadan. On se prépare depuis quand? Depuis le mois de Rajab et Sha'ban. Pareil, pour le Hajj, bien avant, je commence à me réveiller pour Qiyam ul-Layl, pour Tahajjud. Je commence à faire doua. Vous savez, quelqu'un qui ne fait jamais doua, qu'elle la protège. Ou quelqu'un, hein, ça ne va pas plaire à certains, qui ne fait que des doigts assistés. C'est-à-dire que si l'imam il fait doigts, il dit Amin, comme dans notre religion, on dit Amen, il dit Amin. Et il ne sait pas c'est quoi faire doigts. Il n'a pas l'habitude de lever les mains 20 minutes, 30 minutes, demander à Allah directement, Allah, demander son Seigneur directement ce qu'il a sur le cœur. Il ne sait pas faire doigts. Vous croyez qu'arriver à Arafat, ça va se débloquer? Il pourra faire doua depuis Assar jusqu'à Ghuroub al-Shams. Vous croyez qu'il pourra tenir 2 heures temps de doua? Il va se lasser. Et nous voyons des gens malheureusement qui à Arafat s'ennuient. Ils demandent doua et puis ils ne savent plus quoi faire. Ils savent boire de l'eau, ils savent faire un tour, ils savent regarder, ils tirent photo, ils reviennent, ils s'assoient. Khassar! C'est quelque chose de, subhanallah, qui fait mal au cœur. Vous êtes à Arafat, vous ne pouvez pas vous concentrer de vos doigts. La ilaha illallah. Mais quelle est la solution? La solution, c'est dès maintenant que la personne apprenne à faire doua. Il apprenne à ressentir la grandeur d'Allah dans son cœur. Il apprenne à connaître son Seigneur, qui dit que même si l'humanité se réunissait pour me demander tout ce qu'ils avaient besoin, et que j'accorde à chaque personne ce qu'il veut, Allah accorde immédiatement à chaque personne ce qu'il veut, cela ne diminue en rien la richesse d'Allah, tout comme quelqu'un qui prend une aiguille qui trempe dans la mer, qu'il retire, quelle quantité d'eau a-t-il retiré de l'océan? Que la personne prenne conscience qu'Allah Ta'ala, il est kun, inna ma'amru idha arada shay'an yaqulahu kun fayakun. Allah, s'il décide quelque chose, il l'ordonne et la chose se réalise. C'est-à-dire, dès maintenant, travailler la grandeur d'Allah dans notre cœur. Dès maintenant, travailler notre humilité devant Allah. Comprendre qu'on n'est rien. Dès maintenant, comprendre quelle est la grandeur d'Allah Akbar, passez-moi, je ne pourrais pas dire physique, mais la grandeur de la grandeur d'Allah, idmatullah, comme on dit, à travers la grandeur de ses créations. Qu'on lise des hadiths sur la grandeur du trône, du arche, qu'on lise des hadiths concernant les malaïkas qui sont autour du trône, qu'on comprenne leur grandeur. Et là, on finira par comprendre que quand on lève les mains, devant qui on se tient, à qui on s'adresse, à qui on demande, comprendre la grandeur d'Allah Azza wa Jal. C'est dès maintenant qu'il faut travailler, c'est ce qu'on appelle la préparation. La préparation spirituelle. Enlever de notre cœur la jalousie. La jalousie qui brûle les actions, les bonnes actions bien sûr. Faire en sorte que notre hajj soit pur. Nous débarrasser de l'argent, de l'intérêt, de l'argent qui est haram. Faire en sorte que lorsqu'on quitte, on n'a pas rompu la relation avec quelqu'un de la famille ou des amis. Parce que quand quelqu'un coupe les relations, au-delà de 3 jours et 3 nuits, ces actions ne sont pas acceptées par Allah Azza wa Jal. Faire en sorte également qu'on demande maaf si on a fait du tort à une personne. Car le jour des comptes, l'opprimé viendra auprès du tribunal d'Allah et prendra son dû auprès de la personne qui l'a opprimé, même si cet homme qui l'a opprimé était un des hommes les plus pieux au monde. Faire en sorte que si on a des parents qui sont encore vivants et qu'on s'était embrouillé avec eux, ne pas aller au hajj sans régler ses problèmes, sans demander maaf, sans demander pardon à ses parents. Parce qu'un musulman peut faire tous les hajj jusqu'à sa mort. Le prophète m'a dit que celui qui quitte ce dunya avec la désobéissance de ses parents, cette personne ne peut accéder au paradis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la préparation spirituelle. Préparer son corps pour se rendre auprès de la Kaaba, préparer notre corps pour se présenter devant Allah et pour le moment le plus important du pèlerinage, lorsqu'on va se tenir debout assis pour le hajj, pour le wukuf Arafa, jusqu'au coucher du soleil, ça nécessite une préparation. Maintenant également, en 2 minutes, le hajj une fois par an, en 2 minutes, hein, le hajj, on parle de hajj mabrour. C'est-à-dire qu'il y a des conditions pour le hajj soit accepté par Allah. Ça veut dire également que si on ne réunit pas les conditions, le hajj risque de ne pas être accepté par Allah. Une des choses les plus importantes, mes chers frères, profiter de chaque moment, de chaque joie du hajj, hein, de mettre en pratique les sunan, les sunnah du hajj. Le 8e de l'Hijja, on doit être à Mina. On doit dormir à Mina. Le 10e d'El Hijja au soir, je dors à Mina. Le 11e, je dors à Mina. Je ne vais pas rechercher la facilité de dormir à mon hôtel et prendre un taxi et revenir le matin. Mes chers frères, le hajj une fois dans la vie, qu'on le fasse de la meilleure des façons en respectant la sunnah que le prophète alayhi salat wa salam nous a enseignée. Il y avait pas mal de choses, de conseils encore à dire, mais le temps est un peu difficile. Bien sûr, pendant le hajj, on essaie, on fait tout ce qui est sunna, on s'éloigne de la bid'a. Vous savez, il y a des actions qu'on perpétue depuis des générations. Ça va pas plaire à tout le monde, mais s'il faut le dire, on le dit. Combien de personnes, le soir, Muzdalifa, il va laver ses cailloux. La ilaha illallah, le prophète sallam ne l'a jamais fait. Les khulafa rachidis ne l'ont jamais fait. Lisez les kutub de fiqh, ce n'est pas quelque chose de sunna, à l'exception, uniquement si on sait que les cailloux sont, n'a pas, comme on dit, sont impur que quelqu'un, excusez-moi, a uriné de cet endroit, et là on lave par précaution, autrement, ça ne fait pas partie des rites du hajj. On parle également des doigts collectifs. Ce qui est un petit peu dommage également, c'est que lors du wukuf Arafat, nous voyons qu'il y a des gens qui ne font pas doigts. Ils attendent que le mualana, le mufti, se mette debout, il fait doigts, et tout le monde va faire doigts avec lui. Mes chers frères en islam, Allah Ta'ala dit « Waïda sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib » Ujibu da'wat ad-da'i, celui qui invoque Allah accepte son invocation. Le prophète sallam n'a pas fait doigt en congrégation le jour d'Arafat. Certaines personnes vont dire que oui, mais il y a des gens qui ne savent pas faire doigt, on les aide. Mais à force de les aider, on est en train de faire des assistés. L'objectif du doigt, c'est at-tadallul wal-khudu', ressentir la grandeur d'Allah. Allah est capable de tout, ressentir, comprendre que je suis rien du tout. Et à chaque fois, à chaque moment de ma vie, j'ai un problème, j'ai un souci, j'ai un inconvénient, je sais m'orienter vers Allah immédiatement. C'est ça le doigt. Pour ça, le hadith prophète dit ad-du'a huwa al-ibada. Le doigt, c'est l'action la plus importante, car cette action va relier le cœur du musulman à son créateur. Maintenant, c'est à chaque fois que je dois faire doigt, j'attends que mon islam fait doigt pour moi et qu'il me dise amin, amin. De un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de demander, et de deux, je ne m'oriente pas réellement vers Allah. Donc que le mu'min comprenne que le doigt, c'est un cadeau qu'Allah lui donne. Le doigt ne doit pas être dit en arabe forcément. Qui c'est qui dit qu'on ne sait pas faire doigt? Ok, pas cause créole? Ok, pas cause français? Vous avez un problème, vous allez voir un médecin, vous dites j'ai tel problème, j'ai mal ici, j'ai des douleurs, j'ai besoin de faire ça. On sait le dire, quand on a un besoin, on sait l'exprimer. Mais devant Allah, on ne sait pas exprimer nos besoins. On a besoin que quelqu'un, il n'y a pas de clergé en islam. On a besoin que quelqu'un exprime nos besoins. Chaque musulman doit se préparer, celui qui va au hajj, pour ce moment important qui est le doua, le rendez-vous avec Allah le jour d'Arafat. Si on avait du temps, on aurait cité les vertus du jour d'Arafat, les récompenses, mais on va laisser ça pour ceux qui iront au hajj, et les ulama vont expliquer à ces personnes. Donc, se préparer spirituellement pour le wukuf Arafat et le hajj d'une manière générale. Et lorsqu'on est à Makkah, on est à Arafat, on voit des musulmans de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, de la Russie, de tous les pays des îles. On voit que ce dîn, il est universel. Que le prophète avait promis que cette religion-là va franchir les frontières. Il le dit à une époque où il est à la Mecque, où ils ne peuvent pas faire la salat dans le haram à Mecca. Ça c'est mu'jiza, miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on voit que tout ce que les gens peuvent faire, caricature, film, reportage sur le dîn sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'affecte en rien notre dîn. Parce que ça c'est le dîn d'Allah, protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. On doit ressentir la grandeur d'Allah lorsque nous voyons toutes ces personnes se prosterner devant Allah et demander droit au même Dieu. Il y avait une petite histoire pour clôturer, pour qu'on comprenne bien. Aller au hajj est un cadeau d'Allah. En 30 secondes, hein, c'est celui qui est venu faire nos visas cette année, il nous raconte cette histoire vécue. Alhamdulillah, cette année, il y a eu 506 visas qui ont été délivrés pour l'île de la Réunion et Mayotte. C'est quelque chose d'énorme, alhamdulillah. Il dit que je suis responsable des visas de hajj au Caire, il y a quelques années. Donc, il distribue les visas à la population égyptienne. Il dit qu'il y a une vieille femme qui vient me voir, une vieille dame, qui dit que vous appelez Ibrahim, dit oui, c'est moi Ibrahim. Elle dit que tu dois me donner un visa de hajj. Elle dit, ya ummi, oh maman, oh ma chère mère, hein, la période de hajj, de visa est terminée. Je peux pas, même le ministre peut pas te donner un visa. C'est impossible. Elle dit oui, mais j'ai vu en rêve que j'allais au consulat, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Ibrahim, il m'a donné le visa. Il m'a dit, oh ma, ummi, tu es arrivé parce que tu as envie d'y aller, tu as fait une synthèse dans ta tête. Il a dit que non, Allah m'a fait voir en rêve, ça veut dire que je suis invité par Allah. Il m'a dit, écoute-moi, ma chère maman, c'est fini, la période de délivration du visa est terminée. Cette femme se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Et la dame dit, donne-moi un papier au moins. Elle dit, un papier de quoi? Elle dit, dans mon rêve, j'ai vu que tu me donnes un papier. Et grâce à ce papier, j'ai eu le hajj, j'ai eu le visa. Elle dit, khalas, il a pris une feuille A4 blanche. Viens, je dis, voilà, fais ce que tu veux avec. Elle a écrit un courrier à l'attention du ministre. Après, la personne me dit que j'ai pris son papier, je l'ai jeté. Je dis, parce que c'est pas possible, je peux rien faire. Je suis responsable des visas, mais je peux rien faire. Il dit que la femme repart, elle est contente. Deux jours après, il me dit qu'il a rendez-vous avec le consul général qui doit délivrer les visas pour les ministres d'Égypte.
Il dit qu'il a un dossier, ministre de l'Agriculture, ministre des Finances, on donne des visas VIP. À la fin, il trouve un papier, écrit gribouillé à la main, c'est le courrier de cette dame. Alors qu'il avait jeté. Il m'a dit que ça, c'est pas possible, ça. Alors le consul qui est en face, qui dit, mais donne cette dernière feuille, qu'on en finisse. C'est quoi? C'est quel ministre celui-là? De l'économie, des finances? Il a dit non, c'est une erreur. Il a dit comment ça une erreur? Il a dit non, c'est une vieille dame qui m'a dit, j'avais pas dit au début qu'elle a le cancer et qu'elle pense que la dernière année qu'elle peut faire le hajj, que s'il vous plaît, laissez-moi faire le hajj. Le ministre a dit, je signe immédiatement qu'elle fasse le hajj. Il a dit, à partir de ce moment, j'ai compris que nous ne sommes que des intermédiaires, que le hajj, c'est le choix d'Allah, c'est l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alamin.